Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Boussouma. Tout de suite, le sommaire. Déjà 2 ans depuis que l'armée a lancé la traque contre les EDF à Beni. Mais malgré les efforts du gouvernement, ces rebelles restent invincibles car les tueries continuent. Déclaration de l'ONG CEPADO. Côté FARDC, on parle plutôt de la conquête de plusieurs bastions des EDF. Clôture hier à Ngandajika, province de Lomami, du colloque interdisciplinaire sur le thème « Le village et l'avenir de l'Afrique noire ». Ces travaux de 3 jours organisés par Ditunga ont permis aux participants de comprendre ce qu'est un village, la vie au village et ont fait des recommandations. Et puis, l'invité de ce midi, le père Rigobert Kyungu, provincial de la Compagnie de Jésus en Afrique centrale. Il nous parle du combat de Mgr Christophe Mundi-Iroi. C'est à l'occasion du 25e anniversaire de l'assassinat de l'archevêque de Bukavu. Madame, Messieurs, bonjour. 30 octobre 2019, 30 octobre 2021, cela fait exactement 2 ans depuis que les FARDC avaient lancé des opérations de grande envergure contre les rebelles ADF dans la région de Beni. C'était sur ordre du chef de l'État pour mettre fin aux tueries des civils et restaurer la paix dans cette région. 2 ans après, les voix divergent sur l'analyse de la situation sur terrain. Martial Papi Mukeba nous en parle.
Pour l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, même si beaucoup d'efforts ont été faits, à ces jours, les ADF restent invincibles. Omar Kavota, son coordonnateur, parle de la poursuite des tueries des civils.
Beaucoup d'efforts ont été consentis par l'armée, mais toujours est-il que les terroristes dont il est question se montrent invincibles. Nous déplorons par exemple qu'au cours des 10 derniers jours, au moins 40 civils soient massacrés par ces terroristes dans le secteur de Rwenzori.
Côté FARDC, on parlait de la conquête de plusieurs bastions des ADF depuis le lancement de ces opérations militaires. Capitaine Anthony Mwalushai est porte-parole des opérations Sokola 1.
Depuis que les opérations dénommées délivrance de Mayangose ont été lancées, on a récupéré Mayangose, Sandola, Madina 1, 2, 3 et 4. On a récupéré Mwalika, Mamouvé, on a récupéré plusieurs villages. Le triangle même qu'on appelait jadis triangle de la mort a été aujourd'hui transformé en triangle de la vie.
Signalons que ces dernières semaines, les ADF ont multiplié des attaques contre les civils dans la région de Beni. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Au sud Kivu voisin, les FARDC ont neutralisé hier dans le territoire de Shabunda 2 combattants Raia Mutomboki du groupe Mabala. C'était au cours d'intenses combats dans la forêt sur la route Kimbili. On compte aussi plusieurs blessés, dont un civil qui était parmi les 7 personnes enlevées par ces Raia Mutomboki. Le récit de Jean Kassami.
Des militaires du bataillon FARDC basé à Isesia poursuivaient les Raia Mutomboki du groupe Jiste Mabala qui venaient d'emporter cette civile dans la forêt après un braquage sur la route Kimbili dans le groupe Mabamukuba Sud. Un groupe de 7 Raia Mutomboki en provenance du village Kose où se trouve le célèbre carré minier du même nom sont tombés sur des passants et ils les ont emportés dans la forêt samedi 30 octobre 2021. Dans la forêt, les FARDC ont réussi à neutraliser 2 combattants. Taraïa, Mutomboki, Makila et Windela. Les premiers, c'était lui le chef de bande, selon la société civile de Wamukuba Sud qui cite l'armée comme source principale de l'information. À titre de rappel, le même groupe Raya Mutomboki Mabala avait encore tendu une embuscade sur la route Kimbiri lundi passé. Les commerçants qui se rendaient au marché de Kankinda dans les territoires voisins de Walungu ont été pillés de faute en comble. La société civile de Wamukuba Sud encourage alors les FARDC du bataillon en place pour sa proactivité dans la lutte contre les Raia Mutomboki. Kikulube, Jean Kassami, Radio Okapi.
Province Lomami, je vous le disais en titre, clôture hier à Ngandajika du colloque interdisciplinaire sur le thème « Le village et l'avenir de l'Afrique noire ». Ces travaux de 3 jours organisés par le projet Ditunga, une association de développement, ont été animés par 20 des professeurs d'université venus de Rome, des États-Unis, de Kinshasa ainsi que de l'espace Kasaï. Quelques recommandations ont été faites, notamment l'augmentation des structures scolaires dans le cadre de l'éducation inclusive ainsi que la protection et la valorisation de la nature. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
Les 3 jours de travaux ont permis aux participants de comprendre ce qu'un village à travers différents exposés, de connaître comment se passe la vie au village et de proposer des pistes pour promouvoir le village afin qu'il devienne un espace où il fait beau vivre. Pour y parvenir, quelques recommandations ont été adoptées à l'endroit des personnes vivant au village, à celles vivant en ville, aux autorités coutumières et aux pouvoirs publics. Suivons une des recommandations du premier jour avec Rachel Tchibola, chef des travaux à l'ISP Lubumbashi.
Les habitants du village sont, comme les autres, appelés à prendre bien au sérieux leur existence en vivant pleinement leur présent.
Pour vivre heureux au village, cette résolution a intéressé Hortense Ngoya, enseignante dans une école de Ngandangeka.
Face aux problèmes qui se posent aux uns et aux autres, chacun doit savoir apporter les ressources matérielles, intellectuelles à l'autre.
Parmi les résolutions adoptées pour promouvoir le village, la révérende sœur Astrid Wivine Mialala, ingénieure agronome, l'agronome venu de Luisa dans le Kasaï central a retenu ce qui suit.
Dans la protection de l'environnement, nous invitons nos villages à faire une exploitation éco-responsable qui veut dire quand on coupe une plante d'office, on cherche à la remplacer par une autre.
De Ngandangeka, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, parlons de l'appui de la MONUSCO aux travaux de pré-validation de la cartographie et des groupes thématiques de la société civile du Tanganyika. L'objectif est d'élaborer un support de référence indispensable aux partenaires. L'action de la section des affaires civiles rentre dans la stratégie de retrait de la MONUSCO de la province du Tanganyika. L'activité est organisée pendant 2 jours en partenariat avec le ministère provincial du plan. Le compte rendu de François-Xavier Mibé.
J'attends de toutes ces associations un développement durable pour la province du Tanganyika.
C'est en ces termes que la représentante du ministère provincial du plan, Dr Chantal Kibanza, a résumé l'attente de l'autorité provinciale aux organisations de la société civile présentes aux travaux. L'atelier vient d'ébaucher sur un projet du livre qui retrace la cartographie des organisations de la société civile du Tanganyika. Le secrétaire exécutif de la CEDJP, l'abbé David Louaka.
Nous avons un référentiel pour travailler de façon ordonnée et appuyer l'État et nos communautés. Et de là, je dirais que nous sortons renforcés.
Les travaux viennent aussi de permettre aux acteurs de la société civile d'agir dans la pluralité des actions, mais des actions qui convergent aux objectifs du développement de la province. C'est ce que pense la vice-présidente du réseau des femmes du Tanganyika, Fernande Ete.
On a un peu travaillé en ordre dispersé et la MONUSCO, avec sa section affaires civiles, nous aide à nous regrouper par thématique.
Pour le chef de bureau de la MONUSCO, Jacob Mogheni, leur vient pour les structures de la société civile de conjuguer les efforts en commun afin de réussir l'entreprise amorcée pour l'épanouissement du Tanganyika après le retrait de la MONUSCO. Kalemi, François-Xavier Mibé, Radio Okapi.
Désormais, les minerais de cassitérite produits au Maniema peuvent contribuer au développement du pays. C'est ce qu'affirme le porte-parole des coopératives minières de cette province. Ferouz Zikiza, la catalogue, l'a dit aux médias hier à Goma. Selon lui, un mois après la reprise officielle de la libre circulation des minerais entre les provinces du Maniema, du Nord et du Sud Kivu, l'impact économique est maintenant visible à la fois pour l'État congolais et les opérateurs miniers des 3 provinces. Ferouz Zikiza, dans ses propos recueillis par Denise Lukeso.
Il y a 10 ans, Martin Kabwelulu avait interdit, par les biais du Premier ministre Matata Ponyo, les transferts des minerais vers le Nord Kivu. Vraiment, tous les négociants ont beaucoup souffert. Il n'y a pas eu même de construction, mais une seule maison n'a pas été construite. Les minerais s'achetaient à un prix qui était fixé d'autorité par les comptoirs en place. Mais aujourd'hui, avec la libre circulation des minerais, les minerais qu'on achetait à 7 $ et 8 $ à Kalima, il y a 3 à 4 mois, aujourd'hui, ça se vend à 16, même à 19 $ ici à Goma. C'est pourquoi nous dirons encore une fois de plus merci à notre gouverneur et ses députés qui nous ont aidés à faciliter cette traçabilité et transfert des minerais. Les chefs de l'État, nous le disons toujours merci parce que avec cette allure, si on fait 3 à 4 vols, je crois que avec cette traçabilité et libre circulation des minerais, je suis sûr et certain que nous allons évoluer et l'émergence, le temps attendu par les Maniema et le Congo tout entier sera au zénith.
Rappelons que c'est le 25 septembre dernier que le premier vol acheminant 2 tonnes de cassitérite en provenance de Kindu Kalima a atterri à l'aéroport de Goma. C'est en exécution d'un protocole d'accord conclu le même mois de septembre entre les gouverneurs des 3 provinces, accord relatif à la libre circulation des minerais et la lutte contre la fraude minière. Direction l'Ituri, le conseil urbain de la jeunesse de Bounia appelle les autorités provinciales et nationales à venir en aide à une centaine de personnes mâles ou non-voyantes qui errent dans les rues de Bounia. Le président de cette structure l'a dit hier à Bounia au cours d'une manifestation culturelle organisée à l'occasion de la journée internationale de la canne blanche, journée célébrée le 30 octobre de chaque année. Pour Jules Taguirabo, cette catégorie de personnes est négligée par la société. Pourtant, elle a besoin de scolarité et d'apprentissage de métiers qui permettent d'être utiles à la société notamment. Cette journée a été marquée par des scénettes, poèmes et chants animés par ces vulnérables à travers lesquels ils ont décrit leurs souffrances. Parmi les organisateurs de cette activité, il y avait les casques bleus bangladais de la MONUSCO qui ont fait des dons en nature à ces personnes, en majorité des jeunes. Jules Taguirabo, président du conseil urbain de la jeunesse de Bounia, s'exprime au micro de Martial Kiza.
Nous demandons d'abord au gouvernement d'avoir une attention particulière à ces aveugles, dans l'encadrement de ces aveugles. Ils ont besoin d'appui à vivre, ils ont besoin d'une salle de classe pour encadrer plusieurs aveugles, parce qu'il y a d'autres aveugles qui sont restés à la maison par insuffisance de salles de classe. À l'occasion, il faudrait aussi leur construire toute une salle ou un internat pour aussi recueillir d'autres aveugles qui sont éparpillés à travers la ville et à travers la province. Il y a d'autres difficultés d'ordre pratique qu'ils ont présentées sur les plats particuliers. Par exemple, ces aveugles qui sont encadrés par les centres de rééducation des handicapés à Mani, ils ont des difficultés à vivre. Et à part ça, il y a le problème de non-vivre et les centres qui les hébergent ont problème de loyer.
Au Maniema, l'inspecteur principal provincial Maniema 1 parle d'une année scolaire médiocre, celle de 2020-2021 dans sa circonscription. Jean-Marie Moyessi l'a fait savoir hier à Radio Capi à l'issue du séminaire d'évaluation des activités scolaires 2020-2021 et la planification de l'année 2021-2022. Il indique que durant 3 jours, les antivaleurs constatées l'année passée ont été recensées et des solutions ont été proposées. Jean-Marie Moyessi au micro de Florence Kiza.
L'année était médiocre, les inspecteurs ont produit très peu. Certains se sont permis de produire des rapports dans leurs chambres, dans les bureaux. Et en faisant le suivi, on a remarqué qu'ils n'étaient même pas sur le terrain. Il y a eu des antivaleurs, par exemple, des cas des inspecteurs qui se cachent ici, qui ne sont pas dans leur lieu d'affectation. Donc nous avons vraiment fait une autopsie sans complaisance sur tout plan. Et nous avons aussi demandé à l'autorité de voir les droits des inspecteurs pour faciliter à ce qu'ils puissent atteindre tous les coins de la province. Je pense que vraiment, c'était un travail fouillé. Vous le verrez à travers le rendement en 2021-2022. Pensons que même les résultats des enfants qui étaient médiocres en 2020-2021 pourra s'améliorer. Et on a projeté de plans pour le redressement en 2021-2022 à court terme, avec l'assistance, l'aide des autorités, que nous puissions aller dans un plan dans 2-3 ans, que le Maniema puisse se faire parler de lui.
Nord Kivu, la reprise des cours reste hypothétique demain lundi 1er novembre dans les écoles publiques de la province. Pour cause, les avis restent encore divergents entre membres du banc syndical de l'EPST, alors que certains de ceux qui sont en négociation avec le gouvernement à Kisantu ou au Congo central appellent à une reprise des cours. Ceux restés en province disent ne pas être convaincus par les provinces du gouvernement. Bernard Denyangui nous en dit plus.
2 jours après la reprise des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale des enseignants à Kisantu dans le Congo central, les délégués des enseignants à ces assises ont lancé vendredi un appel à la reprise des cours dès ce lundi dans les écoles publiques. Cela en réponse au préalable présenté par le gouvernement d'Ibal Chamavou Innocent de la force syndicale nationale Fosinat.
Le gouvernement a donné son préalable, c'était de suspendre la grève et ce n'est que normal. Nous aussi, nous avons demandé au gouvernement que les écoles, pendant que nous serons en train de négocier ici à Mbouela, perçoivent la prime pour payer les manques à gagner des enseignants et payer les jeunes IDI secondaires.
Mais les autres membres de l'intersyndicale des enseignants restés en province disent ne pas être convaincus et appellent à une autre assemblée générale à Goma ce lundi. Georges Barrebera Ominane est l'un d'eux.
Nous nous sommes réunis hier samedi 30 octobre 2021 à Goma et tous avons décidé de continuer avec le mouvement de grève car les enseignants ne peuvent pas rentrer à cause des promesses.
Rappelons que c'est depuis le 25 octobre dernier que ces négociations entre le banque syndicale des enseignants et le gouvernement est en cours. Elle vise entre autres à trouver des solutions aux revendications des enseignants, notamment sur la fixation du barème salarial des enseignants. Goma, Bernard Dignan, Radio Capi.
Actualité internationale.
Les Soudanais maintiennent la pression sur la junte dans la capitale Khartoum, comme à Kessala dans l'Est. Les cortèges, au milieu des pneus brûlés, ont scandé non au régime militaire. D'autres manifestants ont brandi des portraits du premier ministre déchu et assigné à résidence Abdallah Hamdok, appelant à ne pas renoncer. Et plusieurs centaines de manifestants ont bloqué un axe à Port-Soudan sur la mer Rouge, poumon commercial du pays. Selon un syndicat de médecins pro-démocratie, deux manifestants ont été tués par les forces de sécurité à Omdurman. Ces nouveaux décès portent à 11 le nombre de protestataires tués depuis que le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé lundi dissoudre l'ensemble des institutions du pays.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le père Rigobert Kyungu, provincial de la Compagnie des Jésus en Afrique centrale. Il nous parle du combat de Mgr Christophe Mundiroa Mwiningabo, archevêque de Bukavu. 25 ans après l'assassinat de ce dernier à Bukavu, le père Rigobert Kyungu s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Révérend père Rigobert Kyungu, bonjour.
Bonjour.
25 ans après la mort du prélat catholique, qu'est-ce qu'on peut retenir de Mundiroa aujourd'hui?
Mundiroa est tout un symbole pour notre pays, la République démocratique du Congo. Il a mené le bon combat de la foi, mais en même temps aussi le combat de la démocratie, des droits de l'homme, de la libération du Congo et de la résistance pour que le Congo ne soit pas balkanisé.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le combat de Mundiroa a des effets positifs?
Oui, je crois que un grand effet positif, c'est la conscientisation, parce que Mgr Mundiroa a alerté sur les dangers de la balkanisation, sur les dangers de l'exploitation de l'Est du Congo et même de tout le Congo. Et ce sont des phénomènes que nous voyons aujourd'hui. Et donc, cette conscientisation est très présente, notamment dans le chef des habitants de Bukavu, du Kivu et de ceux qui l'ont connu. Et j'espère que cela peut faire tache d'huile pour tous les Congolais, afin que nous continuions à défendre notre pays.
Est-ce que vous estimez que ce qui était arrivé à Mundiroa est connu aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale?
L'opinion nationale connaît certainement, surtout les personnes avisées. L'opinion internationale connaît très bien, même si parfois elle fait semblant. Et je crois qu'il faut découvrir davantage, il faut creuser, il faut chercher à savoir ce qui s'est passé sur l'assassinat de Mgr Christophe Mundiroa.
Elle fait semblant, donc vous demandez à la communauté internationale de sortir de cette hypocrisie?
Oui, pas seulement sur l'assassinat de Mgr Christophe Mundiroa, mais sur tous les drames que nous vivons au Congo. Le Congo est victime de l'indifférence de la communauté internationale.
Vous l'avez reconnu, Mgr Mundiroa symbolise des milliers de victimes oublié. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des revendications sur le plan national pour que justice soit faite?
Tout à l'heure, nous suivrons la conférence de Mgr Mouyengo qui veut justement aller dans ce sens-là. Mais pour nous, jésuites, avec l'église de Bukavu, notre revendication, elle est sur le plan religieux, spirituel. Nous travaillons à la cause de sa béatification.
Effectivement, par rapport à la cause de cette béatification, où en sommes-nous aujourd'hui avec les démarches?
Les démarches sont très bien avancées. D'ailleurs, même ce matin, j'ai écrit une lettre très importante à Rome pour que ces démarches soient accélérées. Il y a deux phases importantes dans les démarches. La phase diocésaine avec les enquêtes, ensuite la phase romaine. La phase diocésaine a été conclue il y a exactement 3 ans aujourd'hui. Et donc, on est passé à la phase romaine qui prend encore du temps et qui prend son temps. Mais je dirais qu'en général, nous ne devons pas trop nous impatienter, parce que dans l'Église, les causes de béatification et de canonisation ont souvent été très longues. Nous voulons qu'il soit béatifié, mais soyons en même temps patients. Ce que nous devons faire, c'est prier pour que ce processus avance bien.
L'Université catholique de Bukavu et l'Université Lorela au Congo ont décerné à titre posthume un diplôme de doctorat honoris causa à Mgr Christophe Mundiroa Mwiningabo. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Ce diplôme représente beaucoup. Je dois dire humblement que j'ai été le premier à revendiquer que ce diplôme lui soit décerné, parce que, ayant fait une thèse sur sa figure, j'ai découvert qu'il a toute une mine qui nous a laissé, une bibliothèque. Il ne faisait que chercher. Il a laissé beaucoup de choses qu'on pouvait même rassembler rassemblées et présentées comme des thèses dans différentes matières.
Et pour terminer, venons-en au symposium qui est organisé pour 4 jours ici à Kinshasa. Pourquoi ce symposium et quelle est sa spécificité?
Le symposium fait partie des activités du jubilé de 25 ans de son assassinat, le jubilé d'argent, qui a été inauguré à Bukavu il y a une année et qui se conclut maintenant. Pour que ce diplôme honoris causa lui soit décerné, nous avons voulu entourer l'événement des conférences scientifiques en appelant des experts qui l'ont connu, qui ont étudié sa matière, tout ce qu'il a écrit, pour justifier ce diplôme honoris causa.
Révérend Père Robert Kumbo, je vous dis merci.
Je vous remercie aussi.
Le provincial de la Compagnie des Jésus en Afrique centrale était avec Jean-Désiré Kanyama. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba, à la mise en onde Jean-Claude Nsiala et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net. À partir de 13h, retrouvez Pascal Masirika. Merci.